Chapitre 8. Dispute. Concord, New Hampshire. Lundi 14 juin 2010. Lorsque je passais la porte de la maison, Gaal Wood se tenait debout dans le couloir comme s'il m'attendait, l'air sinistre. L'inscription « Joie de vivre » que je venais de passer ne m'avait jamais paru aussi mal à propos. « Sergent, tout va bien ?» demandai-je mal à l'aise. « Alors comme ça, vous fouillez dans la vie d'Hélène ? C'est à ça que vous passez vos journées ?» Je regrettais amèrement mes secrets. Je sentais à présent la fureur de Gaal Wood et je m'efforçais de l'apaiser. « Sergent, c'est plus compliqué que ce que vous pouvez imaginer. » Il me jeta un paquet de feuilles au visage. Mes articles sur l'affaire Alaska Sanders et la photo de la jeune femme. Il les avait trouvés. « Nom de Dieu, Marcus, dites-moi que vous avez une bonne raison. » Que Gaal Wood m'appelle par mon prénom n'était pas bon signe. « Hélène, ne vous trompez pas, sergent. Si elle a eu un comportement inhabituel ces dernières semaines, c'était pour vous protéger. Elle a trouvé une lettre anonyme qui vous était destinée et elle ne voulait pas vous en parler avant d'en savoir plus. Le soir de sa mort, le soir où elle essayait de vous joindre, elle avait fait une découverte. Et je sais ce qu'elle avait découvert. » Je sortis de la poche arrière de mon pantalon l'enveloppe et la tendis à Gaal Wood. Au moment où il prit connaissance du message anonyme, je pus lire la stupéfaction sur son visage. « C'est Nicolas Kaczynski qui vous a envoyé ce message, le flic qui, je sais très bien qui est Kaczynski, » me coupa Gaal Wood. « Et j'imagine qu'Hélène le savait aussi. C'est lui qui a écrit cette lettre, j'en suis quasiment certain. »
« Quasiment ?»«
Il y a un faisceau d'indices concordants, sergent. Notamment son adresse sur un morceau du journal utilisé pour composer ce message. Ça ne peut pas être un hasard. Il ne reste plus qu'à aller l'interroger. Je venais justement pour vous raconter tout cela. Il faut aller voir Kaczynski et l'interroger. » Gaal Wood resta quoi ? Il me dévisageait avec mépris. Je me sentis obligé de meubler le silence. « Sergent, si je ne vous en ai pas parlé plus tôt, c'est pour vous épargner. Je n'allais pas en rajouter avec tout ce que vous traversez. » Après un nouveau silence très désagréable, Gaal Wood me lança d'une voix sourde. «
Barrez-vous, Marcus. Barrez-vous d'ici avant que les filles ne reviennent de l'école. »
Il n'y avait pas à tergiverser. Je regagnai la chambre d'amis et y ramassai mes quelques affaires que je fourrais pêle-mêle dans ma petite valise. 5 minutes plus tard, je montai à bord de ma voiture. Gaal Wood me regardait depuis son porche, comme s'il voulait s'assurer que je fiche bien le camp. Avant de fermer ma portière, je lui hurlai «
Enquêtez ! Enquêtez, sergent ! Vous devez découvrir pourquoi Kaczynski vous a envoyé ce message. »
« Qui vous dit que Kaczynski en est l'auteur ? N'importe qui aurait pu récupérer un journal lui appartenant pour composer cette lettre ridicule. » Et vous, vous tombez dans le panneau comme un débutant. C'est votre livre qui vous est monté à la tête. Vous prenez pour un grand détective désormais. N'êtes qu'un pantin, Marcus. »
Je lui tins tête. Pourquoi faire croire que Kaczynski est l'auteur de cette lettre anonyme? Votre théorie n'a pas de sens, sergent.
Ça en aurait encore moins de penser qu'il considère soudain que Walter Carré était innocent. Carré a avoué, il y a un enregistrement vidéo de sa confession. Pourquoi Kaczynski reviendrait-il sur tout cela 11 ans plus tard?
Parce que ça fait 11 ans que ça le hante, qu'il est en fauteuil roulant, sans doute en train de crever, et qu'il veut soulager sa conscience.
Je ne sais pas ce que vous sous-entendez, Marcus, mais il est temps pour vous de partir.
Il me tourna le dos pour rentrer chez lui. C'est alors que je m'écriai
« Hélène ne serait pas fière de vous !»
Gaal Wood se retourna furibard. Dans sa colère, il arracha du mur le panneau « Joie de vivre » et le lança de toutes ses forces dans ma direction, qu'il tomba sur le capot de ma Range Rover et l'enfonça. Avant de quitter Concord, je passai saluer Lansdane. «
Ne partez pas sur un coup de tête, Marcus, »
m'enjoignit-il après que je lui eus raconté ce qui venait de se dérouler.
« C'est une affaire qui me dépasse, » dis-je. « Et puis Perry a raison. De quel droit me suis-je mêlé de tout ça ?»
« Vous devez aller au bout.
Allez-y vous-même, hein. Vous êtes flic après tout. »
« Je ne peux pas. »
« Et comment ça, vous ne pouvez pas ?»«
Je ne peux pas ouvrir une enquête comme ça. Vous imaginez le bordel au sein de la police. Je ne peux rien faire sans preuve concrète. »
J'étais abasourdi par cette dernière phrase.
Alors c'est pour ça que vous m'avez poussé à enquêter? Pour que je fasse le sale boulot en sous-marin? Pour que vous ne vous salissiez pas les mains? Ah bravo, prix Nobel de la lâcheté! Vous l'avez fait très spontanément, Marcus. Comme je tournais les talons, Lansdane me lança. Vous savez ce qu'aurait dit Hélène? Ah, ne mêlez pas Hélène à tout ça. Elle aurait dit que le Marcus Goldman de la vérité sur l'affaire Harry Kéber ne laisserait jamais tomber. Les romanciers enjolivent toujours la réalité. Je suis bien placé pour le savoir. 5 heures de route plus tard, j'arrivais à Manhattan dans les embouteillages, les lumières et le vacarme du début de soirée. Je retrouvai mon appartement 3 semaines après l'avoir quitté. Je pris une douche, je me commandai à manger, puis je me postai à la fenêtre, contemplant l'effervescence de New York dans la nuit d'été. Je pensais à Perry. Je fixai mon téléphone, espérant un appel de sa part, en vain. Je me demandais si nous pourrions recoller les morceaux ou si j'avais définitivement perdu mon dernier ami. Plusieurs jours s'écoulèrent. Je n'eus aucune nouvelle de Gale Wood. J'essayai de l'appeler à plusieurs reprises, sans succès. Ce froid entre nous m'était insupportable. Je finis par prendre ma voiture, dans l'idée de retourner à Concorde et de nous expliquer. Mais je me dégonflais pendant la traversée du Massachusetts. Et sans vraiment savoir comment ni pourquoi, j'échouai à l'université de Burroughs, où j'avais fait mes études et rencontré Harry Kéber. Je retrouvai les lieux avec une pointe de nostalgie. Je fis un pèlerinage à travers la salle de boxe, le grand auditorium où je m'étais illustré face à Harry un jour de 1998, et ses couloirs tant de fois empruntés avec mon camarade de chambre Jared. Je me demandais ce que Jared était devenu d'ailleurs. Le semestre était terminé et les lieux étaient déserts. Je me rendis au département de littérature et fis un arrêt devant le bureau de Harry. La plaque portant son nom avait été retirée. Je ne pus m'empêcher d'ouvrir la porte. La pièce semblait inoccupée. Elle sentait le renfermé. Il n'y avait que les meubles réglementaires, des étagères et un bureau en contreplaqué. Personne n'avait donc remplacé Harry depuis qu'il avait été licencié en juin 2008. J'ouvris les tiroirs du bureau. Les 2 premiers étaient vides. Dans le 3e, je trouvai un vieil exemplaire d'un journal sur lequel était posée une statuette de mouette. Je tressaillis. Que faisait cet objet ici? Alors que j'allais m'en emparer, une voix me fit sursauter.
« Ça pourrait être votre bureau, Marcus. »
C'était Dustin Pergal, le doyen de la faculté de lettres. « Je suis venu en visite, bredouillai-je. » Pergal sourit.
« Je vois ça. »
« Comment allez-vous, monsieur le doyen ?»«
Je ne suis plus doyen. Je suis désormais recteur de cette université. » Vous voyez, j'ai pris du galon, mais pas autant que vous. Dire que j'ai failli vous mettre à la porte en 1998 et que vous êtes désormais l'étoile des lettres américaines et la fierté de cette université.
Pergal m'invita à dîner chez lui. J'acceptai et me retrouvai dans sa coquette résidence du campus. J'y fis la connaissance de sa charmante épouse et je dois avouer ici que je passai une très agréable soirée.
Grâce à votre maison pour les écrivains, l'université de Burroughs a acquis un certain prestige, me confia Pergal pendant le repas. Beaucoup d'étudiants rejoignent la faculté de lettres dans l'espoir de bénéficier d'un séjour à Aurora.
Vous m'en voyez ravi.
Et cette Earn Pincus qui fait le lien avec l'université est formidable.
En effet.
C'est lui que vous êtes venu voir à l'université.
Non.
Vous ne m'avez pas dit ce qui vous amenait ici. Vous cherchiez quelqu'un en particulier?
Oui.
Moi.
Pergal ne put retenir un sourire.
Vous savez, Marcus, ma proposition de tout à l'heure était tout à fait sérieuse. Le bureau de Harry pourrait être le vôtre. Pourquoi ne viendriez-vous pas donner un cours d'écriture? J'ai une place pour le semestre d'automne.
Il faut que j'y réfléchisse.
On pourrait faire un essai de 6 mois, pour voir si l'enseignement vous plaît. Bon, évidemment, ce n'est pas Columbia, mais nous avons notre charme. Enfin, vous le savez.
Je relevai le défi au vol. Ça marche. Comptez sur moi, m'engageai-je. Pergal poussa un étonnant petit cri de joie et nous scellâmes notre accord par une poignée de main. Au moment de repartir,
Il me raccompagna jusqu'à ma voiture. J'osai enfin lui poser la question qui me brûlait les lèvres depuis tout à l'heure. « Avez-vous eu des nouvelles de Harry Kéber ?»«
Harry Kéber ? Non. Pourquoi en aurais-je ? » ?»«
Je ne sais pas. Je demandais à tout hasard. »«
Je vous enverrai une proposition de contrat par courrier. En attendant, puis-je annoncer la bonne nouvelle à l'interne du département de lettres ?»«
Bien entendu. » Il était déjà tard, je n'avais pas le courage de rentrer à New York. Plutôt que de m'arrêter dans un motel glauque du bord de l'autoroute, je roulai jusqu'à Boston. Je pris une chambre au Boston Plaza, où, pensant me faire plaisir, on me surclassa dans une suite immense où je me sentis perdu. Je restai un long moment dans l'obscurité à contempler la Charles River et la ville de Cambridge qui se profilaient à l'horizon. Boston me fit évidemment penser à Emma Matthews. Je conservais dans cette ville les souvenirs de notre liaison qui, malgré la passion, n'avait duré que quelques mois. Comme aurait dit ma mère, Emma aurait pu être la bonne. Je l'avais rencontrée un peu plus d'un an avant le séisme de mon succès, tandis que j'écrivais le livre dont j'espérais qu'il me rendrait célèbre. Mars 2005, Université de Burroughs, Massachusetts. « Comment avance votre livre ?» me demanda Harry en me servant une tasse de café dans son bureau. « Je n'ai jamais autant écrit de ma vie. »«
Vous avez déjà un titre ?»
J'acquiesçai. « J'ai comme Goldstein. »«
Ça sonne bien. Je suis curieux de vous lire. »«
Bientôt, » promis-je. Ce jour-là, Harry me proposa de l'accompagner à une représentation théâtrale donnée dans l'auditorium, une adaptation moderne de La Cerisée de Tchekhov. Je me retrouvais ainsi au premier rang d'un spectacle exécrable. Les acteurs étaient minables, la mise en scène catastrophique. L'entracte fut mon moment de répit. Je pris un verre au bar avec Harry, mais quand il fut temps de regagner la salle, je le laissai y retourner seul. Tous les spectateurs rejoignirent leur place, et il ne resta bientôt dans le foyer que deux personnes, moi et cette fille aux yeux verts qui me regardait. L'attraction fut irrésistible.
« C'est une très mauvaise pièce, » me dit-elle.
« Tchekhov assassiné, » m'offusquai-je. Elle éclata de rire et me tendit la main.
« Je m'appelle Emma. »«
Marcus. Marcus Goldman. » Elle eut l'air surprise.
« C'est toi, Marcus Goldman ?»«
Est-ce qu'on se connaît ?» demandai-je.
« Non, mais le professeur Kéber nous a parlé de toi pendant son séminaire. »«
Ah bon ?» Je crus un instant que Harry avait vanté mes mérites, mais Emma de m'annoncer
« Tu es Monsieur Pip ».
J'étais mortifié. 7 ans plus tôt, alors étudiant en première année, je m'étais fait remarquer pendant le cours de Harry Kéber en me déclarant fervent partisan de la fellation. C'était en pleine affaire Lewinsky, le fameux scandale de la pipe au président Clinton. Mon coup d'éclat avait failli me coûter ma place à Burroughs et me collait à la peau depuis. Emma, remarquant mon air dépité, se pencha alors à mon oreille et y murmura « Je n'ai pas dit que je n'aimais pas les pipes. » L'instant d'après, je lui offrais un verre. Emma était étudiante en dernière année de littérature. C'était à peu près tout ce que je retins de notre discussion, trop occupé que j'étais à admirer son visage, à regarder ses lèvres, à les imaginer contre les miennes. Elle interrompit ma rêverie en me demandant
« Et toi ?» Qu'en penses-tu ?
Comme je ne voyais pas du tout à quoi elle faisait allusion, j'y allais au culot.
« Je suis de ton avis, » répondis-je d'un air très sûr de moi.
« Enfin quelqu'un qui est d'accord avec moi. Le professeur Baxter donne un aperçu biaisé de la chronologie. Il faut tenir compte du contexte. C'est pourtant tellement évident, non ?»«
Tellement évident. La chronologie, c'est élémentaire. » »«
C'est comme le séminaire du professeur Kéber. Il est certes très intéressant. » La semaine dernière, nous avons visité la maison d'Edith Wharton à Lennox. Grande romancière, je ne dis pas. Quelle œuvre magistrale. Mais une fois encore, on ne lit que des auteurs morts. Je regrette que le professeur Kéber ne fasse pas intervenir des écrivains, je veux dire en dehors de lui-même. Avoir l'occasion de leur parler, de les comprendre. J'aimerais tellement rencontrer un écrivain.
Je répondis du tac au tac. Ça tombe bien, je suis écrivain. Emma écarquilla les yeux. Elle sourit. Et ce sourire la rendit encore plus belle.
« Tu es écrivain ?»«
Oui, je travaille à mon premier roman. Mon agent le trouve très prometteur. Ce n'était qu'un demi-mensonge. J'avais envoyé les premiers chapitres de G comme Goldstein à un agent new-yorkais, Douglas Claren. Mais j'attendais encore son retour de lecture. La mention de mon soi-disant agent fit son effet. Emma me regardait à présent avec une intensité qui n'avait rien de déplaisant.
« Je pourrais le lire ?» demanda-t-elle.
« Non. »«
S'il te plaît, je ne préfère pas. J'aimerais tellement !» supplia-t-elle encore.
« On verra. » Elle sourit triomphante.
« C'est fou, tu es le premier écrivain que je rencontre. Je trouve ça passionnant. »
Elle se mit à me bombarder de questions. Comment est-ce que j'écrivais? Comment me venaient les idées? Est-ce que je m'inspirais de ma propre vie? Combien de temps fallait-il pour rédiger un feuillet et combien de feuillets par jour? Les matins étaient-ils plus propices à la création que les soirs? À ce moment-là, une amie d'Emma apparut de la salle.
« Emma, tu es là? Qu'est-ce que tu fabriques? Le spectacle a repris. »
Emma soupira et se leva. Comme je restais assis au bar, elle me dit
« Tu ne vas pas me laisser endurer seule cette horrible pièce de théâtre ?»
Je la suivis docilement. Il restait une place libre sur leur rangée. Nous nous assîmes côte à côte. Elle posa sa main sur la mienne. Au contact de sa peau, je tressaillis. La deuxième partie du spectacle était encore plus atroce que la première. Mais j'en tirai une contrepartie de taille. Emma finit par s'endormir et posa sa tête contre mon épaule. En cette soirée de juin 2010, alors que je contemplais Boston, j'eus envie de retrouver Emma, prendre de ses nouvelles, savoir ce qu'elle était devenue. Internet m'aida à la localiser. Elle tenait un magasin de décoration à Cambridge. Je m'y rendis le lendemain matin. Lorsqu'elle me vit passer la porte de sa boutique, elle resta interloquée.
« Marcus ? Emma ? Moi, je passais par là et je t'ai vu par la vitrine. » « C'est dingue, ça !»
Elle me demanda ce que je faisais à Boston. Je répondis que j'étais venu rendre visite à des amis. Comme elle me proposa de boire un café, je simulais un emploi du temps chargé en consultant ma montre.
« Oui, avec plaisir, » répondis-je finalement. « J'ai un peu de temps. »
Elle confia le magasin à son employé et nous nous installâmes dans un bistrot voisin. La dernière fois que j'avais vu Emma remontait au 30 août 2005, jour de notre séparation. Elle était désormais mariée et mère d'une petite fille.
« Tout ça en 5 ans, » dis-je.
« Toi, en 5 ans, tu es devenue une vedette ?»«
Mais je ne sais pas trop ce que je suis devenue. »
Elle éclata de rire. « Et ta boutique ?» demandai-je. « À l'époque, tu venais de terminer tes études de littérature. »«
J'ai été à l'université pour faire plaisir à mes parents. Comme tu le sais, j'ai toujours adoré la mode. Avoir ma propre boutique, c'était mon rêve. »
Et tu ne m'en as jamais parlé.
Je m'en suis rendu compte après qu'on s'est... Bref, tu m'as inspiré.
Moi ?
Oui, toi et ta manie de façonner ta vie en fonction de tes aspirations, de ne pas rentrer dans le rang, d'avoir envie de vivre plus vite et plus fort que les autres.
En regardant Emma, je repensais aux quelques mois qu'avait duré notre relation. Des mois heureux, passés pour l'essentiel à Boston. Boston, Massachusetts, juin 2005. Chaque fois que je retrouvais Emma, nous avions pour rituel d'aller nous prélasser au soleil sur les pelouses du Boston Common, le parc emblématique du centre-ville. Étendu à plat ventre, j'écrivais, utilisant un livre comme support. Elle lisait, la tête posée sur mon dos. Elle finissait immanquablement par rouler sur moi jusqu'à me faire lâcher prise. Et nous nous enlacions dans l'herbe moelleuse, nous embrassant, jeunes amoureux insouciants. Cela faisait 3 mois que nous étions en couple. Le soir de notre rencontre, après la pièce de théâtre, Emma m'avait proposé de boire un verre à Boston, où elle habitait, et qui n'était qu'à 30 minutes de route de Burroughs. J'avais évidemment accepté, et après avoir fait la tournée des bars, elle m'avait invité chez elle. Emma venait d'une famille très fortunée. Elle résidait dans un appartement de Beacon Hill. Nous avions parlé, nous avions ri, nous avions bu de la tequila, nous avions terminé la nuit dans son lit sans dormir beaucoup. Ma vie avait alors pris la forme d'un ballet à 3 temps. 1. j'écrivais mon livre G comme Goldstein à Montclair, chez mes parents, dans ce qui était la chambre d'amis et qui avait été transformée par eux en bureau. 2. À chaque avancée significative, ou sinon tous les 10 jours, j'envoyais mon texte par email à Harry, ainsi qu'à celui qui était désormais mon agent, Douglas Claren. 3. Mes pages envoyées, je sautais dans ma vieille Ford et je prenais la route en direction d'Aurora pour aller discuter de mon travail avec Harry. Je m'arrêtais à Boston à l'aller et au retour pour retrouver Emma. Ce jour de juin 2005, Emma et moi étions allongés dans l'herbe du parc. Soudain, reculant légèrement la tête, elle planta ses yeux dans les miens et passa ses doigts dans mes cheveux avec tendresse. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» me demanda-t-elle. « Rien. Je sens quand quelque chose te perturbe. » Elle me connaissait déjà bien. « Roy Barnaski m'a téléphoné, » dis-je. Elle ouvrit grand les yeux. « Roy Barnaski ? Le patron de Schmidt & Hansen ?» En personne. « Et ? Raconte, raconte !» Il a lu les premiers chapitres de G comme Goldstein, envoyés par mon agent. Il a adoré. J'ai rendez-vous avec lui mardi prochain, à New York. « Oh, Marcus, c'est génial !» Elle se blottit contre moi avant de relever la tête, affichant un air circonspect. « Quand lui as-tu parlé ?»« Avant-hier. »« Avant-hier ? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Et je ne sais pas, sans doute par superstition. Il aura lu d'autres chapitres d'ici là. Peut-être va-t-il changer d'avis et trouver mon livre nul. »« Tu as peur d'échouer ou de réussir, Marcus ?» C'est une bonne question. Elle prit mon visage entre ses mains. Tout va bien se passer, mon ange. Garde confiance. Ce soir-là, comme tous les dimanches, Emma dînait chez ses parents, et depuis peu je l'accompagnais. Michael et Linda Matthews, les parents d'Emma, habitaient Chelsea, la banlieue chic de Boston, dans une grande propriété au parc soigné, avec piscine, tennis, buissons sculptés, aller en gravier et petit chien qui pue. Le dimanche, ils organisaient des dîners de famille avec leurs 3 filles, Emma, Donna et Anna, et leurs moitiés respectives. Donna, 28 ans, devait se marier en septembre avec un informaticien d'un ennui mortel qui s'appelait Théodore, mais qui insistait pour que je l'appelle Teddy. Anna, qui avait 31 ans, avait épousé un avocat du nom de Chad, talentueux et prometteur selon ses propres dires. Teddy et Chad, en bonnes pièces rapportées, bataillaient de briller devant leurs beaux-parents. Ils profitaient de ces repas pour s'affronter poliment en étalant leur réussite. Ma venue dans la famille constituait une aubaine. Un soi-disant écrivain sans le sou. On aurait pu rêver meilleur faire-valoir. Le duel des beaux-frères commençait dès l'arrivée chez les Matthews. Chacun garait sa voiture devant la maison. Chad, son cabriolet sport, Théodore, son tout-terrain de luxe. Les carrosseries étaient étincelantes, les jantes lustrées. Puis Emma et moi débarquions à bord de ma vieille Ford un peu cabossée, poussiéreuse des kilomètres avalés sur l'autoroute. Teddy et Chad se donnaient alors des petits coups de coude complices, contents d'eux, s'agitant dans leurs chemises de premier de classe. Je me souviens que ce dimanche soir de juin, Chad et Teddy avaient du mal à s'illustrer. Chad se vantait d'une nouvelle affaire qu'il venait de décrocher et qui allait lui rapporter bonbons, tandis que Teddy se félicitait d'ouverture incroyable dans un marché émergent et très juteux. Et alors qu'il surenchérissait pour épater la galerie, Papa Matthews, qui avait jusque-là hoché la tête d'un air convenu, se tourna vers moi. « Et vous, Marcus, quoi de neuf ?»« J'avance dans mon livre, » répondis-je laconiquement. J'omis volontairement de mentionner le rendez-vous avec Roy Barnaski. Emma, toujours prompte à me défendre, voulut en parler, mais je lui pressai discrètement la main pour l'en dissuader. « Est-ce que vous pensez à une option B ?» m'interrogea Papa Matthews. « Une option B ? Que voulez-vous dire ?» demandai-je tout en sachant pertinemment où il voulait en venir. « La plupart des écrivains ne vivent pas de leurs plumes. Ils sont enseignants ou quelque chose du genre. Vous pourriez être prof au lycée ?» voire viser un peu plus haut, faire une thèse et devenir professeur à l'université. Un peu d'ambition, quoi. » Un silence gêné plana. Emma finit par voler à mon secours. « Marcus est trop modeste pour vous le dire, mais il a rendez-vous avec Roy Barnaski, mardi prochain. » Comme ce nom ne semblait rien évoquer à l'Assemblée, elle précisa.
Barnaski est l'un des éditeurs les plus puissants du pays. Il adore le livre de Marcus. S'il demande à le rencontrer, c'est pour lui faire une offre.
Papa Matthews prit alors un air condescendant. Sans vouloir vous vexer, Marcus, combien ça va vous rapporter? Des cacahuètes? C'est tout à votre honneur d'aspirer à être artiste, mais un livre, ça prend un temps fou à écrire et ça ne rapporte rien. Vous êtes un jeune homme ambitieux. Je peux vous trouver un emploi dans l'administration d'un de mes groupes, avec un salaire honnête et des horaires convenables. Vous offrir la sécurité, quoi. Il faut penser au futur, un peu. La stabilité. Construire quelque chose pour Emma et vous. Vous n'allez pas vous contenter d'être un scribouillard toute votre vie.
Emma se décomposa. Par égard pour elle, j'encaissais le coup sans broncher. Mais pour amuser la galerie, Chad jugea bon de surenchérir.
« Ah, c'est vrai, Marcus, tu ne vas quand même pas rouler dans ta vieille Ford toute ta vie !»
Dans ce café de Boston, 5 ans après notre séparation, je me demandais quelle aurait été ma vie si Emma et moi étions restés ensemble. Serais-je venu m'installer à Boston? Serais-je aujourd'hui un jeune père de famille vivant le rêve américain dans un joli pavillon de banlieue? Tout cela me renvoyait à l'éternelle interrogation. Aurais-je été apaisé aujourd'hui? Emma m'arracha à mes pensées en me posant enfin la question qui devait la tarauder depuis que j'avais passé la porte de sa boutique.
Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Qu'est-ce que tu fais ici?
Je me doute que ta venue n'est pas un hasard.
Je me demandais ce qui n'a pas marché entre nous. Elle manqua de s'étouffer.
T'es sérieux, Marcus?
Répondit-elle amusée.
C'est le genre de question que tu te poses encore aujourd'hui?
Non, j'aimerais juste comprendre ce que j'ai fait de ma vie. Elle me dit alors d'un ton à la fois triste et grave.
Tu as eu du succès, Marcus.
C'est le succès qui nous a séparés. En quittant le café, nous fîmes quelques pas ensemble dans la rue. Nous arrivâmes à ma voiture. Elle fit la moue devant ma Range Rover.
J'aimais le Marcus en Ford, me dit-elle. Tu sais pourquoi? Parce que ta vieille bagnole était le signe que malgré ton talent et tout le succès que je te pressentais, tu étais un être à part. Je t'ai quitté parce que ce livre prenait déjà trop de place. Tu allais devenir célèbre, je le savais. Tu avais tout pour réussir. Je t'ai quitté parce que je savais que tu allais m'échapper.
Je ne répondis rien. Elle remarqua la carrosserie enfoncée par l'applique en fer forgé de Gaal Wood.
Faut réparer ça, m'ordonna-t-elle d'un ton moqueur. Ça fait mauvais genre.
Ça ne partira pas. C'est une cicatrice. J'ouvris la portière. Elle me demanda «
Tu as un morceau de papier et de quoi écrire ?»
Je lui donnai un bloc-notes et un stylo d'hôtel qui traînait dans ma boîte à gants. Elle y griffonna quelques lignes.
« Voici mon adresse. La prochaine fois que tu auras envie de me voir, pas la peine d'inventer une histoire pour débarquer au magasin. Viens directement à la maison. »
En quittant Cambridge, je me vis un instant dans la peau du Marcus en Ford, celui qu'elle avait aimé. Je serais devenu prof dans un lycée de Boston, selon le destin que me prêtait son père. Emma, heureuse dans sa boutique. Une vie de famille rangée. Une vie sans succès d'écrivain, mais justement, peut-être plus sereine. Je pris la direction de New York City, avant de décider de poursuivre sur l'autoroute 95 vers le sud et la Floride. La route jusqu'à Miami étant trop longue pour être parcourue d'une traite, je fis un arrêt pour la nuit à Richmond, en Virginie. J'arrivai le lendemain en fin d'après-midi chez mon oncle Saul. Il fut heureux de me voir débarquer à l'improviste. Je profitai de mon séjour pour noter quelques souvenirs des Goldman de Baltimore. Oncle Saul était curieux de savoir ce sur quoi je travaillais. Je ne m'en ouvris pas, mais il dut comprendre que c'était en lien avec sa famille. Quelques jours plus tard, il m'apporta une photo qu'il venait de retrouver en mettant de l'ordre dans ses affaires. C'était un cliché qui datait de 1995. On m'y voyait, enfant, à Baltimore, entouré de mes cousins Woody et Hillel, ainsi que d'Alexandra, une femme qui avait beaucoup compté pour moi et dont j'avais pensé un temps qu'elle serait l'amour de ma vie, mais que j'avais perdue en même temps que mes cousins. Après avoir contemplé la photo, je voulus la rendre à Oncle Saul. Mais il m'invita à la garder. il ne sut jamais l'incidence que cette photo allait avoir par la suite dans ma vie. Ce même jour, un appel que je n'attendais plus allait bousculer mon été. C'était Gal Wood. Il m'annonça d'une voix pleine d'un tonus retrouvé.
« Je ne suis qu'un pauvre type qui vous doit des excuses. Vous aviez raison, l'écrivain. Depuis 11 ans, un assassin est en liberté. »